L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Kuala Lumpur, Malaisie, septembre 1998. Coup de tonnerre, le Premier ministre, médecin et politicien, accuse soudain son dauphin, le numéro 2 du gouvernement, de corruption, trahison, abus de pouvoir et d'homosexualité dans un pays où celle-ci est un crime puni sans pitié. Va-t-il être immédiatement jeté en prison? Quelques obstacles surgissent. Celui qui était l'héritier désigné reste immensément populaire, jusque dans les communautés chinoises et indiennes de Malaisie. La crise coïncide avec les 16e Jeux du Commonwealth. La reine d'Angleterre sera présente. Pendant ce temps, Caroline et son équipe accueillent un congrès de scientifiques dont le thème « Le sommeil » rassemble des médecins de toutes les spécialités et nationalités. Au sein du groupe, rivalité personnelle et complot politique entrent en collision. Je viens de vous lire la quatrième de couverture du dernier livre d'une autrice qui vient nous voir aujourd'hui pour la quatrième fois. Après Un mari d'Asie et Sois sage au mon bagage, puisque je n'ai pas eu le plaisir de le recevoir pour
N'oublie pas Irma.
Je vous invite à la rencontrer aujourd'hui dans Aéropage autour de KL Complot et Caducé, paru aux éditions GOP. Bonjour Hélène Honorat.
Bonjour.
Hélène, peut-être quelques mots sur vous. Alors déjà, vous avez une page Wikipédia. Hein. Je crois que vous êtes la seule autrice que je reçois qui a une page Wikipédia.
Je suis très flattée.
Voilà, c'est le début de la grande célébrité. Donc, vous êtes née à Arcachon, d'un père ingénieur, d'une mère au foyer. Vous publiez vos premières nouvelles à 16 ans. Ça, c'est quand même intéressant. Quel rapport avait la petite fille, puis la jeune fille, Hélène Honorat, avec la littérature?
Je crois que c'est ce qui m'a sauvée, parce qu'on avait une vie de famille très très difficile, et je pense qu'il y a deux choses qui m'ont sauvée, c'est d'avoir une sœur, et puis de lire, et ça, au moins pour ça, je n'ai jamais été privée de cette ressource-là, mais pour le reste, c'était... On bougeait beaucoup, ma mère était très déjantée, et j'étais très bonne élève pour compenser, mais j'ai changé 11 fois d'école entre la maternelle et la quatrième. Voilà. Et en quatrième, ma scolarité a été arrêtée comme celle de ma sœur par ma mère, qui avait notre garde.
On en a déjà parlé, mais quels sont les grands textes qui vous ont inspiré ou qui vous ont frappé?
Dans la littérature enfantine, ouais. Et de jeunesse.
Oui. Parce que de mémoire, je crois que vous avez lu des textes d'adultes assez tôt, en définitive.
Oui, mais
j'ai... C'est considéré être de la littérature pour adultes. Vous l'avez lu, jeune fille en tout cas, pas enfant, mais jeune fille.
Non, oui, peut-être, mais la littérature de jeunesse, d'enfance même, la littérature anglo-saxonne comme Peter Pan ou Les quatre filles du docteur March, des choses comme ça, Petite princesse, ça m'a beaucoup marqué. Quelquefois d'ailleurs j'y fais référence dans ce que j'écris. Et puis sinon, ensuite c'est vrai que je me suis passionnée pour... une certaine génération de pilotes, Saint-Exupéry, ou de héros, d'aventuriers de cette époque, Joseph Kessel, hein, des gens comme ça.
Il y avait l'accès à la littérature était facile à la maison, il y avait des livres à la maison.
Oui. À ça, on a beaucoup manqué de stabilité et de calme, mais on n'a jamais manqué de livres, ma sœur et moi.
Elle aussi a beaucoup lu. Elle est rentrée dans le même processus.
Oui, elle lit d'ailleurs encore maintenant en anglais, ce que je lui envie beaucoup.
Quand on sent les souvenirs que vous avez de votre littérature d'enfant, vous n'avez jamais eu envie d'écrire pour la jeunesse?
Pour de la jeunesse, non. Pendant ma jeunesse, oui, puisque j'ai commencé à 16 ans, puis j'écrivais déjà de petites choses. Ouais. Mais non.
Tourner vers la jeunesse, non?
Non, pas juste.
C'est difficile hein, d'écrire pour les jeunes. C'est vraiment un monde à part, la littérature jeunesse.
Tout à fait.
Vous publiez vos premières nouvelles à 16 ans. Comment on arrive à se faire éditer et publier à 16 ans?
Je crois que je lisais chez des amis, quelque chose qui s'appelait à l'époque Top, c'était le groupe Réalité, c'était de la littérature jeunesse, c'était Réalité version jeunesse. Et donc j'ai dû envoyer des nouvelles à Top et ils les ont prises, ils les ont publiées.
C'est un autre temps, hein.
Maintenant, oui.
C'est les princes et les princesses de l'amour et Nabila et autres, c'est différent quand même.
C'était pas dans ce genre-là.
À 18 ans, vous effectuez vos premiers sauts en parachute. Pourquoi je me suis arrêtée là-dessus? Parce que bon, c'est un peu la tête et les jambes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'une intellectuelle, Hélène Honorat. Vous êtes aussi une sportive, parce que quand même, pour faire des sauts en parachute, faut y aller.
Oui, j'espère bien que j'avais les deux compétences. J'étais assez imprégnée par toute cette génération Saint-Ex, Mermoz, Kessel, etc. Et puis, je voulais en fait apprendre à piloter, mais j'étais trop jeune et c'était trop cher. Donc, j'ai commencé par le parachutisme et finalement, ça m'a passionnée. J'en ai fait pendant des années.
Après, vous poursuivez vos études supérieures à Perpignan, donc vous changez de mer, hein, enfin, quittez l'océan pour la mer. Puis à Montpellier, vous menez plein d'activités. Alors, c'est toujours avec votre humour qui vous appartient. Chien d'aveugle, femme de ménage, ouvrière à la chaîne. Vous étiez obligée de payer vos études.
En partie, mais j'avais quand même renoué avec mon père qui m'a financé mes années ici, à Paul Valéry, mes années d'université, parce qu'entre-temps, j'avais passé l'examen spécial d'entrée en fac qui s'adresse aux gens qui n'ont pas passé le bac, ce qui était mon cas, je ne l'avais jamais passé, soit qui ont échoué, auquel cas il faut attendre un certain nombre d'années de prescription avant de se présenter à l'examen d'entrée en fac.
Je ne savais pas que vous n'aviez pas passé votre bac, on n'en a jamais parlé.
Ma mère nous a retirés de l'école. Moi, je n'avais pas encore 16 ans, donc j'aurais dû y rester.
Ah oui.
Personne ne s'en est soucié.
C'était des études de quoi, d'ailleurs? Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Vous avez commencé quand vous êtes entrée en fac?
Quand je suis entrée en fac, à Perpignan et puis ici, à Paul Valéry, c'était des études de lettres.
De lettres. Et vous continuez à pratiquer le parachutisme. C'est cher, d'ailleurs, à pratiquer. C'est un sport cher ou...
C'est cher, c'est un sport pauvre en ce sens qu'en général on est dans des dortoirs et on prend des douches froides sur les terrains, mais c'est un sport qui revient quand même relativement cher. Je viens de recevoir sur une clé USB les 24 épisodes du feuilleton tiré de mon premier roman qui s'appelait Le Dessous du Ciel.
C'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs, puisque à 21 ans, sous le pseudonyme de Dominique Piette, vous signez un contrat avec les éditions Buchet-Chastel pour votre roman adapté ensuite sous la forme d'une série télévisée suisse et allemande, Les Dessous du Ciel. Ça parlait de parachutisme, Les Dessous du Ciel?
Oui, tout à fait. Et comme je travaillais aux Antilles à l'époque où c'est sorti, je n'avais jamais vu l'ensemble des épisodes. Et je viens de les recevoir et j'ai visionné ça. Ça m'a fait un effet extraordinaire.
Combien d'épisodes alors il y avait eu?
Il y a eu 24 épisodes de 13 minutes chacun.
Ah, c'était un beau feuilleton quand même. Qui jouait votre rôle alors?
C'était pas mon rôle, d'autant plus qu'il y a un écart déjà entre le livre et le scénario.
Oui, ça a été remanié.
C'est ce que j'ai découvert, oui, avec beaucoup d'eau de rose, beaucoup de scènes de jalousie, beaucoup d'histoires de cœur qui ne figuraient pas dans mon livre. Mais c'était Marie-Georges Pascal. Et puis, le pilote, c'était Pierre Brice, qui était une énorme star en Allemagne où il jouait l'Indien Winnetou. Et l'un des parachutistes, le premier rôle, c'était Gérard Chambre, qui se dit plaisamment ma créature et que j'ai retrouvé il y a peu à Paris parce que lui vient d'écrire une biographie de Pierre Cardin.
Et vous m'en avez parlé, c'est quand vous avez été dans le 5e arrondissement, non? C'est à la mairie.
Voilà, place Saint-Sulpice, dans le cadre des Mardis littéraires, j'ai retrouvé ma créature et on a été ensemble pour présenter nos livres. Mais pour le mien, c'était Sois sage ou mon bagage, et le sien, Cardin.
Sur Wikipédia, je ne l'ai pas dit là, mais vous avez deux filles, donc on peut dire deux filles.
Oui.
Elles l'ont vu?
Non, tout le monde me le réclame maintenant. J'ai envoyé les 24 épisodes à mon meilleur ami, mon gourou informatique, Alain, en espérant qu'il puisse en tirer quelque chose, parce que les couleurs sont délavées.
Oui, bien sûr.
Tout le monde fume, personne ne couche. Les hommes ont des cheveux longs et des pattes d'eph. Enfin, ça m'a fait un effet de voir
vous
ça.
Vous vous rappelez de l'année de la sortie?
C'était 74 et ensuite ça a été diffusé pendant 10 ans en France, en Suisse et en Allemagne.
C'était déjà les chaînes télé allemandes et suisses et françaises qui s'étaient alliées pour faire une coproduction ?
Je ne sais pas. En France, c'était sur la deuxième chaîne. Et en Allemagne et en Suisse, je ne sais pas. Il y avait une version allemande. Et Pierre Brice était un Français, mais très connu parce qu'il jouait Winnetou.
Ben voilà, on ira voir. Déjà l'Inde n'était pas loin alors. Hein. Déjà, l'Asie n'était pas loin.
Mais je crois que c'était un Amérindien qui jouait, hein, je crois.
Donc, vous obtenez votre licence de parachutiste pour professionnel, une licence de lettres modernes, une maîtrise, un CAPES. Bref, vous êtes bardé de diplômes.
Bon, j'aime bien dire que j'ai eu une licence de lettres et une licence de paraprofessionnel.
C'est bien, c'est bien. Et puis, vous êtes détaché du ministère de l'Éducation nationale au ministère français des Affaires étrangères. Où vous occupez différents postes à Sri Lanka, en Indonésie, en Malaisie, en Amérique centrale. Vous n'avez pas encore écrit sur l'Amérique centrale. 15 ans en Asie qui vous ont apporté tant et tant de choses, notamment un mari d'Asie.
Oui.
J'ai un souvenir merveilleux de ce livre. Mais là, c'est le séjour en Malaisie qui vous a inspiré, peut-être pour ce livre dont on va parler. Vous avez vécu à Kuala Lumpur ?
J'ai vécu et travaillé à Kuala Lumpur 4 ans.
Au moment des événements qui se passent dans le livre dont nous allons parler.
De 1995 à 1999, en famille, c'est-à-dire avec mon mari et mes deux filles.
Le premier poste à l'étranger, c'était Ceylan ?
Oui, c'était Sri Lanka, le tout premier. Avant, j'étais outre-mer, mais pas à l'étranger, j'ai travaillé aux Antilles pendant plusieurs années.
Et vous aimeriez écrire, ça vous inspirerait autant que l'Asie, de parler de l'Amérique du Sud, ou centrale d'ailleurs ?
Je pense qu'il n'y a que l'Amérique latine pour pouvoir faire concurrence à l'Asie, en termes de pays extraordinaires. Mais j'étais basée au Costa Rica. Alors, j'ai beaucoup voyagé dans les autres pays, le Guatemala, j'aime beaucoup le Panama. Je suis allée au Pérou, en Bolivie, au Venezuela, en Colombie. Mais l'Amérique centrale est un peu dépourvue de vestiges archéologiques et d'une culture qui soit pas trop nord-américanisé. Mm-hmm. Donc ça m'a moins marqué que l'Asie.
On va marquer une première pause musicale pour avoir longuement le temps de parler de K.L. Complot et Caducée. Et quand on a parlé d'illustration musicale, quand je vous écris, parce que depuis le temps qu'on se connaît, on devient un peu amis. Je parlais de La Belle Hélène, donc on a choisi deux concerts, toutes les deux, de prendre Offenbach et La Belle Hélène. Thank you. toujours sur FM+, et toujours dans Aéropage, et en compagnie d'Hélène Honora pour parler de ce livre au titre mystérieux, du moins pour moi la première fois que je l'ai vu, KL, Complot et Caducé. Hélène, rebonjour.
Rebonjour.
Alors c'est quoi ce KL ?
KL, ce sont les initiales de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, du moins l'une des capitales, puisque la Malaisie est un pays où on ne fait rien comme tout le monde, un pays unique au monde, et entre autres avec deux capitales, Kuala Lumpur, la capitale historique, et Putrajaya, la capitale administrative sortie de la jungle.
Alors, qu'est où ? Parce qu'alors, autant Kuala Lumpur, j'ai regardé sur la carte, là encore au bord de la mer. Hein, voilà.
C'est au sud, de Kuala Lumpur. Alors, il y a bien sûr, il y a Rio et Brasilia, et Kuala Lumpur a bien d'autres, et la Malaisie, bien d'autres titres d'étrangeté.
Je vais refaire un peu le pitch, hein, vous m'arrêtez, on l'a fait en lisant la quatrième de couverture, mais je voudrais la rappeler en ce début de deuxième partie d'émission. Donc on est en 98, nous on est avec nos bleus champions du monde de foot, la France Black Blanc Beurre, et pendant ce temps-là, la Malaisie accueille pour la première fois les Jeux du Commonwealth. Donc la reine Elisabeth fait le déplacement en personne jusqu'à Kuala Lumpur. Et au même moment, y a un drame qui se joue au plus haut sommet de l'État, entre deux grandes figures politiques, le Premier ministre Mahathir Mohamad et son dauphin Anwar Ibrahim. Et en même temps, il y a une délégation de médecins du monde entier qui se retrouve à Kuala Lumpur pour participer à un congrès international de médecins sur le thème du sommeil. C'est important quand même. L'héroïne du roman, Caroline, est l'accompagnatrice de ce congrès. Donc ça, c'est... J'ai voulu refaire le pitch parce que ça... Le roman, il y a vraiment trois grandes inspirations. Il y a le côté romanesque qu'on vient de voir autour du personnage de Caroline. Donc elle est en mission pour le cas du Sétour pour faire en sorte que ce collègue se colloque dans de somptueux hôtels de luxe. Dont la peinture est encore fraîche, se déroule sans accroc. Elle est accompagnée de plein de chouettes personnages, donc Boris, Sarasvati, on va revenir dessus. Le roman, vous avez commencé à le penser romanesque, autour de l'histoire romanesque, autour de l'histoire, du côté historique dont on va parler, ou du côté tourisme, où ça a été un joyeux mélange tout de suite des trois.
C'est un joyeux mélange, mais j'ai beaucoup pensé quand même en l'écrivant à Mahathir et à Anwar Ibrahim, parce que ce sont deux personnalités extraordinaires, chacun dans son genre, et qui ont marqué vraiment l'histoire de l'Asie du Sud-Est, et ça continue d'ailleurs.
Donc on peut peut-être en parler plus, donc de la fibre historique du roman, puisque c'est un roman, hein, je le redis encore, c'est pas un livre historique. Ça se déroule donc pendant ces événements politiques majeurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi tout d'un coup le Premier ministre se sent mis en danger par Anwar ?
Alors Mahathir, c'est le père de la Malaisie moderne, c'est selon une expression qui n'est pas de moi, une main de fer dans un grand crin, Mahathir, et donc il est spécialiste des déclarations fracassantes, dont la presse française d'ailleurs se faisait l'écho. Mahathir Mohamad, un habitué des outrances xénophobes, il clamait volontiers son antisémitisme, un complot juif gouverne le monde, d'autant plus que c'était la crise économique de 97-98, ça c'est Le Figaro, Libération 2003, Mahathir, 22 ans de provocation en Malaisie.
C'est-à-dire que nous, on avait l'image plutôt d'un, pas dictateur, mais enfin pas loin quand même. Oui.
Malaisie, Le Figaro, la retraite politique de Mahathir, le terrible. Et l'événement du jeudi, à l'époque, ça c'était 97, donc au moment de l'invasion du ciel par les fumées qui viennent d'Indonésie et des incendies, le haze,
ouais, voilà,
les brouillards empoisonnés. Alors l'événement du jeudi titré « Le rêve de Dr M », puisque Mahathir est effectivement médecin, part en fumée. Il s'imaginait déjà dépasser l'Occident. Mahathir Mohamad, le premier ministre malaisien, a dû rabattre son caquet. Alors,
on voit les tours Petronas d'ailleurs là.
Voilà. Alors Mahathir, c'est quand même, certes, il avait toutes ses outrances et toutes ses provocations, mais c'est en même temps un personnage extraordinaire. Le voilà, la main de fer
dans
le gant de crin.
Qui a voulu aussi sortir son pays, on en parlait juste avant l'émission, du 149e rang mondial en matière de droits de l'homme, et puis il a voulu aussi faire grandir son pays peut-être économiquement.
Un décollage économique foudroyant, il a transformé son pays, il a fait de son pays la Malaisie, qui était un pays quand même émergent et sous-développé, le cinquième dragon, où on disait dragon et on disait en Asie que les quatre premiers, c'était Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Corée. Voilà. Et donc le cinquième, c'était la Malaisie. Donc dans ses années de règne, entre guillemets, puisque lui, il était chef d'État, il était premier ministre, c'est le système anglo-saxon, il a quand même fait bâtir les tours Petronas les plus hautes du monde, l'aéroport le plus moderne du monde à Sepang, un circuit de Formule 1 à Sepang également, Cyberjaya, la ville électronique qui est l'équivalent de la Silicon Valley pour les États-Unis.
Et Colmar.
Colmar.
Alors, ça, c'est dingue, cette histoire.
Dans un genre plus kitsch, on peut voir. Il y a des tas de lieux fous en Malaisie. La Malaisie, c'est unique au monde. Donc, comme il voyageait quand même avec son épouse en Europe, ils sont tombés amoureux, surtout madame, de Colmar. Et donc, il a fait rebâtir le centre de Colmar, à quelques kilomètres de Kuala Lumpur, en pleine jungle.
D'ailleurs, il y a un moment, bah tiens, je viens juste de le voir passer dans le livre où j'ai repris le bouquin, Hélène. Hein. Je dis, parce qu'elle dit, où est-ce que sont partis ? À Colmar. Je dis, comment à Colmar ? Attends là. J'ai dû rater quelque chose. En plus, la réponse à Colmar est en haut d'une page. Voilà, bah, je tombe dessus. Où sont les autres en quête du Montier ? Et le docteur Germain et le docteur Krishnan qui étaient là ce matin ? À Colmar, avec Maxime et Omblin. Voilà, la première fois qu'on lit ça, on se dit, j'ai repris en arrière, je vous promets, là, j'ai raté quelque chose. Là.
Du tout, donc réplique de Colmar, et par exemple, dans les lieux fous, dans la nouvelle capitale Putrajaya, sur le lac de Putrajaya, il y a une demi-douzaine de ponts magnifiques, et l'un des ponts, c'est la réplique du pont Alexandre III à Paris. Donc c'est dire quand même que Mahathir, il a beau fustiger l'Occident, il y a en même temps cette dimension de dépit amoureux et de fascination pour l'Occident et pour la France. Et donc il y a aussi dans les lieux fous à voir, il y a le château Kelly du côté de Ypres. Et ça c'est un manoir qui avait été commencé par un planteur écossais, et puis le planteur voulait d'ailleurs, alors c'est marbre, briques, tourelles, c'est un manoir, et le planteur voulait importer les premiers ascenseurs du pays, et puis il est mort, et en 1926 le manoir est resté en plan, avec son magnifique environnement, au milieu de nulle part, et maintenant c'est devenu une attraction, ça n'a jamais été terminé.
Il n'y a aucun danger pour les touristes français d'aller en Malaisie ?
Oh non, non, beaucoup moins qu'ailleurs.
Ouais, oui.
Non.
Et là, c'est peut-être une question un peu pointue au niveau économie, mais qu'est-ce qui payait tout ça ? Parce que bon, faut le payer quand il y avait une économie pareille que dans les autres économies asiatiques, de fabrication de l'industrie du numérique, tout ça. Il s'est positionné sur quoi pour
un faire commerce de composants électroniques énorme. La Malaisie fournit, grâce à des gens comme Mahathir, hein, fournit le monde entier en composants électroniques. Le latex, en 2019-2020, au moment de l'épidémie, de la pandémie de Covid, la Malaisie, qui est le premier producteur du monde, a fourni 300 milliards de paires de gants en caoutchouc. Alors, 2022, plus de 6% de croissance, on en rêve. Hein. Mais moi, je dis que la Malaisie, c'est évidemment toujours... toujours le pays de oui, mais. Alors, on peut le voir dans un sens comme dans l'autre. Mais 20 à 30% des travailleurs sont des immigrés. Bangladeshi, indonésiens, Sri Lankais, philippins, etc. Exploités et sous-payés. Donc, les 300 milliards de paires de gants sont fabriqués par des gens, évidemment, qui sont sous-payés et qui ont payé pour venir travailler et à qui on confisque leur passeport jusqu'à ce qu'on en ait vraiment, on ait pressé le citron jusqu'au bout.
Donc, il y a quand même...
Et puis, la corruption.
Ah oui, c'est monnaie c'est ce plus que courante.
Bien sûr, c'est ce que dénonçait Anwar Ibrahim, la corruption, le népotisme. Et puis, après Mahathir, il y a quand même eu un premier ministre, et avant Anwar, il y a quand même eu un premier ministre qui a détourné l'équivalent en dollars de, je crois, 700 millions de dollars. Il est en prison quand même. Pour 12 ans.
C'est bien parce que vous avez abordé la troisième partie, je dirais, du livre, c'est-à-dire le côté touristique, parce qu'on se balade beaucoup dans la ville de Kuala Lumpur. Alors Kuala Lumpur, ça veut dire confluent vaseux.
Oui.
Pas très sympa, mais bon, voilà, on le voit bien sur la carte. Hein. Il y a des sites maintenant qui vous permettent de voir Kuala Lumpur du ciel, c'est super, parce qu'on voit les quartiers, on voit que c'était très vert d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de parcs et c'est très arboré. Et puis, on s'attache particulièrement à ces deux tours Petronas, donc qui ont été, puisqu'elles ne le sont plus maintenant visiblement, c'est Dubaï qui les a dépassées.
Alors, les tours Petronas, l'objet de l'amour et de la fascination, entre autres, de mon héroïne, Caroline, elles ont été... le plus haut édifice du monde de 98, la fin à peu près de leur construction, jusqu'à 2004. Ensuite, elles ont été détrônées par Taipei. Mais elles restent les tours jumelles, les plus hautes du monde.
Sûr.
L'édifice jumeau le plus haut du monde, encore aujourd'hui.
Avec ce pont étrange entre les deux.
Avec la merveilleuse passerelle translucide entre les deux. C'est quelque chose d'extraordinaire, les tours Petronas.
Vous les avez visitées, bien sûr.
Oui, je les ai visitées au titre de l'ambassade, parce qu'on avait des passe-droits et avant qu'elles soient complètement ouvertes et peuplées. D'ailleurs, Libération, toujours les Français, toujours à peine arrogants, Libération avait titré « Les tours Petronas, le plus haut désastre immobilier du monde ». Bon, le plus haut désastre immobilier du monde, c'est devenu quelque chose où travaillent des milliers de bureaucrates et d'employés, qui n'est pas du tout un désastre et qui est devenu pratiquement l'emblème du pays, comme l'opéra est devenu l'emblème de Sydney et de l'Australie.
Hein, bon, nous, on a notre tour Eiffel.
Voilà, mais on est très donneur de leçons. Or, ces tours sont une merveille. La nuit, elles sont en cristal, elles sont illuminées. En fait, c'est de l'acier avec des fondations qui ont été faites par une entreprise française. Et puis tout un tas de nationalités qui ont été mises à contribution. Et au moins, comme elles sont jumelles, c'est ce que je dis à mon héroïne, ma narratrice, ça nous épargne les symboles phalliques et autres délires à propos de la verticalité.
Et je suis allée voir ce que c'était que Petronas, parce qu'en effet, moi, Petronas, je le connais sur les courses automobiles, parce que souvent, sur les arrières de Formule 1, il y a des équipes Petronas, donc c'est une entreprise de pétrole.
Voilà. Pétrole, NAS pour national.
Voilà. Et c'est vrai que je ne le savais pas. Et c'est bien parce que vous utilisez toutes... c'est pas des astuces, mais c'est des astuces littéraires pour nous faire visiter. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a énormément de descriptions touristiques, mais qui ne sont pas des descriptions touristiques. C'est-à-dire que, moi, je vois l'utilisation, par exemple, de la balade en taxi. Hein, puisqu'à un moment, elle rejoint, puisqu'elle va venir, et que comme la ville est quand même en chantier et les hôtels où elles sont en chantier, l'hôtel ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'il va y avoir ces fameux jeux du Commonwealth. Donc, une partie de l'équipe reçue des médecins va aller dans un autre hôtel. Donc, il va y avoir toute une balade entre les deux hôtels et il va y avoir toujours le truc de se rejoindre. Et en plus, il y a deux équipes d'animation aussi, l'une dans un hôtel et l'autre dans l'autre. Et vous utilisez tous ces moments-là de trajet en bus, de trajet en taxi pour nous faire découvrir tous ces lieux magiques, parce que c'est vraiment des lieux magiques. Il y en a un qui m'a particulièrement parlé, c'est qu'il y a des odeurs encore de colonies, c'est Carcosa.
Oui, Carcosa Srinagara, c'était la résidence du gouverneur britannique à l'époque de la colonie. C'est un merveilleux petit manoir dans ce style inimitable, comme la place Merdeka, le Padang à Kuala Lumpur, c'est-à-dire un mélange Tudor, troubadour, colombage, mogol, mauresque, anglo-indien, enfin c'est inimitable. Et donc Carcosa est un peu plus sobre parce que c'est blanc, mais c'est aussi un mélange de Tudor et d'un peu de mauresque. Et c'est un merveilleux endroit. D'ailleurs, les Britanniques n'avaient pas mauvais goût, hein, sur une colline au-dessus de Kuala Lumpur. Et à l'époque, quand ça ne servait pas à des visites d'État, on pouvait y aller prendre un high tea, prendre le thé. Et mes filles adoraient ça parce qu'on allait à Carcosa. Les serveurs étaient presque d'époque. Hein. Il y avait toute l'argenterie, la vaisselle, la porcelaine, les petits napperons et surtout des petits sandwichs, des fraises à la crème, enfin des choses qu'on ne trouvait...
Il y a une scène de dégustation de fraises à la crème qui donne envie. Hein.
On ne trouvait ça nulle part ailleurs. J'ai emmené mes filles, elles étaient folles de joie quand on allait là-bas.
Donc, je voulais la mettre en première question, mais elle vient tout à propos maintenant avec ses fraises à la crème. Qu'est-ce que vous avez mis de vous dans le roman ?
Oh, mes 4 années à Kuala Lumpur, ma fascination pour les tours, qui sont vraiment, je trouve, des merveilles, des fuseaux de contes de fées. Et puis, j'évoque aussi Paul Valéry avec le Cantique des colonnes. Moi, c'est toujours ce qu'elles ont évoqué pour moi. Elles sont en acier et en béton, et dans la journée, elles sont cuirassées, et puis la nuit, elles sont illuminées, elles sont merveilleuses, avec cette sphère qui est en haut de chacune. Et puis, ce que j'appelle ma tendresse horrifiée, parce que c'est pas toujours très esthétique, tous ces bâtiments qui sont des mélanges de tous les styles, mais moi, j'adore ça. Et
oui, elle parle longuement, c'est pas des immeubles sandwich, mais les...
Blood and Bandage, sang et pansement.
Voilà, c'est ça.
C'est comme ça. Alors là, on déflore un peu.
On déflore pas, là. On déflore pas.
C'est un style.
Oui.
Voilà, à rayures, comme des gâteaux rayés. Ouais.
On apprend tellement de choses tout en suivant. On va revenir à l'intrigue romanesque. Parce que l'intrigue romanesque, c'est donc que Caroline va s'occuper de ses médecins avec tous les petits aléas. D'ailleurs, très bien recevoir ses médecins. Je ne sais pas si les laboratoires sont aussi généreux qu'en 98. Hein. Je crois qu'il y a eu un peu des coupes sombres pour proposer des si beaux colloques aux médecins.
Il y a eu une loi qui date, je crois, de 91 et qui, là, a vraiment mis un coup d'arrêt.
Oui, parce qu'il y avait des abus, je crois.
Voilà, exactement. J'en parle, je la cite, cette loi, où quand on emmenait tout le cheptel d'une spécialité, les cardiologues ou les pédiatres aux Maldives, en Chine.
Oui. Bon,
là, il y a eu une limitation. Et surtout, à l'époque, chaque invité pouvait emmener une personne de son choix. Donc ça pouvait être son petit ami, sa maîtresse, sa femme, son disciple, son gitan,
son gigolo. Ouais.
Voilà. Et ça n'est plus autorisé.
Et donc Caroline, elle a rencontré à un moment à Noir et elle en a gardé un souvenir d'une grande humanité, à travers une poignée de main. Elle est importante cette poignée de main parce que c'est ce qui va faire que quand elle va sentir cet homme en danger, puisqu'il y a vraiment un vrai danger pour lui et sa famille, elle va vouloir voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas particulièrement à le rencontrer ou à se faire voir de lui, c'est juste qu'elle a envie de savoir ce qui se passe à ce moment-là dans le pays, surtout qu'en même temps qu'il y a ce risque d'émeute, il y a la reine Elisabeth avec son joli chapeau rose. J'ai été voir les photos. Elle a vraiment une jolie robe et un joli chapeau rose. Hein. Les documents existent. Il suffit de taper 16e jeu et on la voit habillée tout en rose avec son joli chapeau. Voilà, on a peur des débordements. Est-ce qu'elle va venir ? Même on se pose la question, est-ce qu'elle va venir ? Est-ce qu'elle ne va pas venir ? Jusqu'où ça peut déborder ? Et donc, oui, le personnage de Caroline, elle, vous la faites aller justement vers un noir et vous parlez d'un noir à travers Caroline et à travers un attaché d'ambassade.
Un attaché médical, Boris.
Qui va l'aider et en même temps Des fois, il n'est pas content qu'elle y aille quand même.
L'aider et la freiner, voilà. Parce qu'elle, elle est effectivement chargée d'accueillir et de recevoir les médecins pour que tout se passe bien. Je me suis inspirée d'une amie qui a fait ce métier et qui a lu le livre et qui n'y a rien trouvé à redire. Et donc, ses accompagnateurs sont tous freelance. Ils travaillent pour des tour opérateurs qui sont spécialisés dans le médical et le paramédical et qui, eux, travaillent pour des laboratoires. Donc, les médecins arrivent, il s'agit de contenter à la fois les représentants de laboratoire, ici ce sont Omblin et Grégoire, les médecins eux-mêmes et le tour opérateur qui a signé avec le labo. Donc ce n'est pas un travail facile.
Et tout ça c'est bien expliqué, enfin, vous créez des personnages, vous donnez chair à ces personnages qui pourraient être des personnages secondaires. Daniel, le directeur, le président du Caduce et Tours, il a quoi, 4 scènes dedans puisque c'est lui qui lui met la pression, voilà.
Par téléphone.
Agnès, c'est par mail qu'elle correspond surtout. Donc Agnès, c'est la personne, si j'ai bien compris, qui l'a fait rentrer.
Caduce et Tours, dans voilà. Cette agence.
Maxime, dont elle est amoureuse.
Qui est l'autre accompagnateur.
Voilà, là c'est le côté vraiment très romanesque. Et puis ce personnage d'Ombeline qui est charmant aussi, et la belle Savasrati, donc qui elle est indienne et dont vous décrivez les beaux costumes, et vous en faites un joli personnage.
Oui, Sarasvati, c'est la représentante des associations régionales de médecins, et donc c'est la partenaire de Boris à l'ambassade, puisque dans un congrès aussi important, le but c'était non seulement de recevoir les médecins et de leur faire découvrir la Malaisie, mais c'est si possible que les laboratoires et les médecins puissent avoir des contacts avec les fabricants et les labos français qui sont implantés à Singapour, en Malaisie ou dans la région. Donc Sarasvati, elle représente les associations locales et elle est chargée, elle aussi, d'accueillir et d'encadrer les médecins qui arrivent. Et elle est d'origine indienne, elle est malaisienne. Il faut peut-être rappeler que tout le monde est malaisien en Malaisie, mais qu'il y a 3 ethnies. Les Malais, l'ethnie malaise, les Indiens, qui représentent avec les autres minorités à peine 10% de la population, et les Chinois, environ 25%. Par l'activité desquelles les Malais se sentent quand même menacés.
Rangé, oui.
Voilà, donc elle fait partie de la minorité indienne et elle met son point d'honneur à être habillée en sari, ce qui n'est pas toujours le cas, mais pour porter haut les couleurs de sa minorité.
C'est un vrai travail d'arriver. D'ailleurs, j'ai commencé l'entretien en disant l'héroïne c'est Caroline, mais l'héroïne c'est Kuala Lumpur.
Oui, c'est très vrai. C'est très vrai.
C'est le premier personnage. Et on sent que ce que vous aimez aussi, c'est nous faire partager. Alors, voilà ce que vous, peut-être, et pour répondre à la deuxième question que je vous ai posée, qu'est-ce que vous avez mis de vous dans le livre? Pas grand-chose dans Caroline, puisqu'elle est une amie. Pas grand-chose dans la rencontre avec les politiques, mais beaucoup dans l'air que vous avez respiré pendant 4 ans à Kuala Lumpur, en définitive.
Ah oui, et puis quand même avec les politiques, parce que même si je n'ai pas rencontré Anouar de très près, Mahathir est une personnalité extravagante, extraordinaire, et Anouar était quelqu'un de très charismatique. Alors, Mahathir a promu Anouar, qui était donc vice-premier ministre, puisque le chef d'État, c'est le système anglo-saxon, c'est le Premier ministre. Il l'a promu et ensuite Anouar lui a fait de l'ombre et surtout ils avaient des vues et des stratégies différentes face à la crise. Anouar étant plutôt en faveur du FMI et Mahathir lui voulant continuer avec ses grands projets de folie, mais dont certains ont débouché et magnifiquement. Et donc, c'était un duel extraordinaire, un duel au sommet, et quand même, la presse internationale s'en est fait l'écho. Et la BBC, je cite régulièrement, je mets des encadrés qui sont des dépêches. Oui. À l'époque, c'était le tout début d'Internet. Donc, ce sont des dépêches de la BBC ou de l'AFP. Mon mari travaillait à titre local pour l'AFP, et tout le monde se faisait l'écho de ce duel au sommet, dont on ne savait vraiment pas comment il allait se terminer.
Oui, d'ailleurs, il y a un texte qui circule à ce moment-là sous le manteau pas tellement d'ailleurs, parce que c'est un au contraire, deux pas sous le manteau, c'est un texte contre Anouar qui met 50 raisons pour lesquelles Anouar ne peut pas devenir Premier ministre. qui dit par exemple « Un noir est un leader sans vision. Ce qui lui tient lieu de vision, c'est la volonté de devenir riche par la corruption, le contrôle du pouvoir à travers l'UMNO et l'homosexualité. » Ça, vraiment, l'homosexualité, ça revient. On l'accuse même d'avoir couché avec son chauffeur. Enfin, des choses absolument abominables. Enfin, coucher avec son chauffeur n'a rien d'abominable en soi.
Avec son chauffeur, avec son demi-frère, ouais. Enfin, on a vraiment cherché ce qu'il y avait de pire, parce que pour un musulman pieux, être accusé devant sa population de ce, et pour un vice-premier ministre de ce genre de choses, c'est épouvantable.
Hélène, avant de passer notre deuxième pause musicale, j'aimerais juste que vous nous parliez, le livre raconte une Malaisie d'il y a 25 ans. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est plus fort qu'Alexandre Dumas qui a écrit 20 ans après. Là, nous sommes 24 ans après. Alors, j'écris Kaël, Complos et Caducée parce que je trouvais quand même ce duel au sommet, cette histoire et puis la Malaisie elle-même extraordinaire. Je signe avec Gop, qui est mon éditeur pour ce livre. Gop, ça veut dire grenouille en thaï. Hein.
D'accord.
Donc, avec David Malioko pour Gop. Et juste après, Anouar Ibrahim devient Premier ministre, donc chef d'État.
Parce que 24 ans après.
Est-ce qu'on a le temps de dire un mot du système très original aussi politique de la Malaisie ?
Voilà, on peut, en deux minutes.
Alors,
on peut.
Unique au monde, en Malaisie, il y a 13 États, dont 9 sultanats, un conseil des sultans. Les sultans se réunissent et tous les 5 ans, ils élisent l'un d'entre eux qui monte sur le trône et qui devient roi. La Malaisie est quand même le seul pays au monde où le roi est élu. Donc, il devient roi et ensuite, il nomme le Premier ministre, le chef de l'État, en accord avec le Parlement. Hein. Mm-hmm. Mais parfois, il n'y a pas de majorité claire qui se dégage. Donc, fin 2022, il y a quelques mois, après toutes sortes de péripéties en tout genre, élections anticipées. Les élections auraient dû avoir lieu maintenant, en septembre. Élections anticipées. Pas de majorité claire qui se dégage. Mahathir, qui a 97 ans,
s'accroche
et qui n'est plus au pouvoir, mais qui voudrait bien y revenir, s'accroche. Anouar est toujours candidat. Donc Mahathir, après avoir été deux fois Premier ministre, et Anouar deux fois emprisonné. Et là, roulement de tambour, coup de théâtre, le roi nomme Anouar Premier ministre. Et donc, depuis quelques mois, Anouar est Premier ministre et chef d'État en Malaisie, avec bien sûr une ligne très difficile parce que c'est une coalition de coalitions, hein, multiethniques, mais quand même nettement moins autoritariste et nettement moins pro-malais que l'était Mahathir. Et maintenant, donc, Anouar étant chef d'État, il a tenu bon quelques mois et il tient bon aussi face au parti islamiste qui voudrait radicaliser le pays. Alors, on a écrit un petit épilogue juste avant que le livre ne soit publié.
C'est passionnant de voir tout ça et puis de découvrir cette Malaisie à travers cet épisode politique. Et on peut rassurer aussi les auditeurs, la reine d'Angleterre est revenue entière. Hein, ça s'est bien passé. Oui. Ça a mis la pression pendant la période, mais elle s'en est bien sortie. Il n'y a pas eu de Danny Croche. On écoute la deuxième pause musicale que vous nous avez proposée, c'était Gérard Manset, Il voyage en solitaire. Pourquoi ? Parce que c'est beau. Non, allez-y, pourquoi ?
Parce que c'est beau, c'est vrai, parce que Manset est aussi un écrivain. Moi, j'ai lu de lui, j'ai lu certains bouquins, Les petites bottes vertes, et c'est vraiment quelqu'un qui a une plume. Et puis parce qu'après tout, alors le texte lui-même n'a pas grand-chose à voir avec l'épopée d'Anouar Ibrahim, mais Anouar, on peut dire qu'il a voyagé en solitaire après des années et des années de prison, et quelqu'un qui lit Shakespeare, Maupassant et Diderot en prison, ça peut pas être quelqu'un d'inintéressant.
Même si Maupassant, des fois, vous mettez un bémol. On écoute.
Il chante la terre, il chante passe le commentaire. Pendant des journées entières, il chante la terre, mais il est seul.
Sur Radio FM Plus dans l'Aéropage, en compagnie d'Hélène Honora, qui est venue nous parler de KL, donc Kuala Lumpur, complot et caducé. Avant de se quitter, Hélène, je voudrais juste citer une de vos lectrices qui écrit sur Babelio et qui dit qu'avec complot et caducé, on se régale, que c'est très enlevé, bien rythmé. Le plongeon au cœur de la capitale malaisienne est un vrai bol d'air. On a l'impression d'avoir bu le thé rooibos avec Boris au sommet de la passerelle des tours Petronas. Un très bon voyage en Malaisie sur fond de crise politique. Et c'est vrai que je voulais mettre l'accent sur le fait qu'on retrouvait dans le livre ce que j'ai tellement aimé dans Le Mari d'Asie, dans Sois sage au bon bagage, même si le côté un peu expliquant sur les bagages était moins fantaisie, mais il y avait beaucoup de fantaisie dedans. On parlait du Mari d'Asie et je me rappellerai toujours de cette scène où vous êtes déguisé en ange pour aller à une soirée à l'ambassade ou je ne sais où et vous perdez vos ailes dans la voiture. Vous avez un ton comme ça très particulier et c'est très agréable dans un livre qui pourrait être voilà, un défilé de beaux lieux touristiques. Non, c'est votre ton qui donne beaucoup de légèreté, beaucoup d'entrain. Je ne suis pas la seule à l'avoir trouvé, puisqu'il y a une vingtaine d'entrées dans Babelio qui mettent en avant ça chez vous. Vous le travaillez ?
J'essaie de... Mais c'est un peu ma pente aussi. J'ai une pente mélancolique et une pente humoristique, comme tout le monde, sans doute. Mais j'aime bien effectivement qu'on l'apprécie. Et alors, j'ai eu des critiques outre Babelio, Nadine Doyen, dans Traversée, qui est une revue littéraire belge, m'a fait une très belle recension. Jérôme Bouchaud et Serge Jardin, qui est lui-même écrivain et qui a illustré sa recension dans Lettres de Malaisie. Et puis alors, celle que j'ai beaucoup aimé, parce que je ne m'y attendais pas, c'est Le Monde Libertaire, le journal sans Dieu ni maître.
Ah oui ?
À qui je n'avais rien demandé et qui m'a fait une critique tout à fait positive et pourtant anarchiste, c'est pas tout à fait mon profil. Et Le Monde Libertaire a dit magnifique roman, etc. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire événement tragique, franche rigolade et adrénaline assurée.
Exactement. Ça m'a fait très plaisir. C'est parfait, voilà. Ça, comme quoi, hein, on est tous sur la même longueur d'onde pour ressentir ce livre. Je voulais aussi dire quelques mots sur la couverture, sur la jaquette, puisqu'il y a dessus, évidemment, dessiné les fameuses tours Petronas, symbole d'avenir. C'est une mosquée qui est importante.
C'est padang avec Big Ben, mais avec un surmonté, coiffé d'un oignon cuivré.
Qui ressemble au chapeau d'ailleurs de la reine Elisabeth.
Voilà, hein. Voilà. Ouais. C'est le padang, la place coloniale qui est maintenant dominée par les gratte-ciel, mais qui a conservé sa personnalité.
Et ce personnage, cette statue-là ?
Hermann Ubbis. Alors Hermann Ubbis, c'est le croisement de Hermès et d'Anubis. Il porte le caducé, comme les médecins qui sont quand même très souvent les héros de mon récit et qui sont quand ils sont entre eux. On a l'impression que les médecins, c'est comme le prêtre ou l'enseignant, que ce sont des gens tout puissants devant lesquels on se soumet, etc. En réalité, quand ils sont entre eux, c'est assez rigolo de les voir se conduire comme des petits garçons en cours de récréation. Voilà. Et donc, ils portent le caducée et les serpents. Et les serpents jouent un certain rôle dans le roman. Et puis, c'est celui qui conduit les âmes, qui les soigne, mais aussi qui les conduit.
C'est le côté romanesque polar dedans. Mm-hmm. Un dernier mot pour dire, donc vous m'avez dit que vous n'aviez pas de projet en cours. Donc Nathalie, ne me demandez pas si j'ai projet. Je n'en ai pas, donc je ne demande rien. Mais peut-être
vacances.
Un mot quand même. Ouais, voilà, un petit peu. Et un petit mot sur votre maison d'édition GOP. Et puis surtout, où est-ce qu'on peut trouver le livre ?
Alors, à Montpellier, bien sûr, à la Géosphère, hein, la librairie de voyage, certaines personnes, quand on en parle, ne voient pas. Et puis, on leur dit, vous savez, c'était les cinq continents. Ah oui !
Tout
donc,
à fait.
La Géosphère, ex-cinq continents. Et puis, sur Internet, n'importe quel moteur de recherche, si on tape GOP, G-O-P-E, le nom de la maison d'édition, qui veut dire donc grenouille en thaï, on trouve la maison d'édition. Et dans les différents onglets, il y en a un pour la Malaisie. Et là, on trouve mon livre qu'on peut commander en ligne.
Merci beaucoup, Hélène Honorat. J'espère qu'on aura donné aux auditeurs l'envie de partir un moment, le temps d'un livre, à Kuala Lumpur pour découvrir ce qui s'y passait en 98 et en savoir plus sur aujourd'hui aussi. Merci, Hélène Honorat.
Merci beaucoup, Nathalie.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.